Donc tout d'abord, nous sommes réunis aujourd'hui pour cela. Le changement climatique est un fait aujourd'hui avéré. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a livré son dernier rapport la semaine dernière. Et donc, a montré que nous allons devoir faire face à un changement climatique, une montée des océans et des menaces sur la biodiversité. Donc il est vraiment nécessaire aujourd'hui d'agir et de tous changer nos comportements pour au moins limiter ce phénomène. Donc, et être bien conscient du fait que chacun à notre petit niveau, nous pouvons agir. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, les associations, les entreprises, les collectivités territoriales qui travaillent dans ce sens, elles observent que malgré un gros effort de sensibilisation, il y a encore peu ou pas de changement de comportement de la part du grand public. Car en effet, la prise de conscience ne va pas forcément de pair avec le changement comportemental réel. Donc aujourd'hui, l'action publique utilise plusieurs moyens pour modifier les comportements, et notamment en matière d'énergie. Donc il y a la réglementation, l'incitation économique, la persuasion. Évidemment, le mélange optimal à appliquer dépend du public visé. Donc par exemple, pour les administrations, vont être plus sensibles à la réglementation et à la persuasion. Les entreprises, davantage aux incitations économiques. Et les ménages, plus à la réglementation et à la persuasion aussi. Donc ici, pour mon cas, on va se centrer sur le cas des ménages, la cible privilégiée des campagnes d'information et de sensibilisation. Et donc nous allons essayer de voir comment la psychologie sociale peut entraîner des effets positifs en matière de changement comportemental. Donc pour resituer un petit peu, la psychologie sociale, qu'est-ce que c'est ? C'est une discipline, une branche commune à la psychologie et à la sociologie. Elle étudie les interactions des individus en groupe, en société et dans les organisations, cela dans leur double dimension d'agents psychologiques et sociaux. C'est une discipline qui possède une méthodologie et des outils propres à la base d'un grand nombre de techniques professionnelles, que ce soit les sondages, les concertations, les cartes mentales. Donc elle s'intéresse à la fois à l'individu, avec ses représentations, ses comportements, ses attitudes, et à l'influence de son environnement physique et social. C'est une discipline donc tout à fait appropriée au changement comportemental, à l'évaluation et à la participation. En effet, pour illustrer cela, la psychologie sociale a déjà été énormément sollicitée pour aider les gouvernements à orienter les comportements des ménages, en période de crise notamment. Donc, par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, pour orienter les comportements alimentaires lors des pénuries, ou lors du choc pétrolier pour les consommations d'énergie. Alors, je vais vous présenter en fait des exemples d'applications qui utilisent des techniques et des outils de la psychologie sociale, et donc surtout des exemples d'applications qui fonctionnent. Donc, en 2010, lors de mon stage de Master 2 de psychologie sociale, j'ai réalisé une recherche-action pour le CREAC, le Centre Régional d'Éco-Énergétique d'Aquitaine. Donc c'est une association qui travaille principalement à la sensibilisation, à l'information du grand public. Ils travaillent toute la semaine à ça, et en fait ils se sont bien rendus compte que, les gens sont sensibilisés, mais malgré tout on observe peu ou très peu de changements de comportement ou pas du tout. Donc leur demande a été de savoir comment engager les gens dans des comportements éco-citoyens. Donc face à ce constat, ce que nous avons fait, c'est que nous avons réalisé une enquête, tout d'abord, auprès d'un échantillon représentatif. Et donc, nous leur avons demandé, qu'est-ce qui vous freine à changer vos comportements ? Principalement, ils nous ont dit que c'était la difficulté de changer leurs habitudes. Donc face à cela, ce que nous avons fait, c'est que nous avons choisi d'utiliser une théorie qui a été élaborée par deux psychosociologues qui s'appellent Beauvois et Joule, qui s'appelle la théorie de l'engagement. Donc en fait, on a, lors d'un atelier de sensibilisation aux économies d'énergie et d'eau, nous avons présenté aux participants une liste de comportements présentant des comportements éco-citoyens en matière d'économie d'énergie et d'eau. Et nous les avons invités à choisir parmi ces comportements un, deux ou trois comportements qu'ils s'engageraient à mettre en place chez eux. Et surtout, ce que nous leur avons demandé de faire, c'est de cocher les comportements choisis. Ainsi, selon la théorie de l'engagement, une fois que nous avons pris une décision, et d'autant plus que cette décision a été prise publiquement, nous avons tendance à nous y tenir. Cela par un effet de gel. Et donc, en effet, ce que nous avons fait, c'est qu'un mois plus tard, nous avons réalisé un suivi personnalisé et nous sommes bien rendus compte que les participants ayant réalisé ce geste engageant déclaraient avoir réalisé plus d'éco-comportements chez eux par la suite. Donc cette technique a montré quand même des effets efficaces. Donc ensuite, mince, je ne l'ai pas sorti. Je voulais vous parler de travaux qui ont été réalisés par la sociologue Marie-Christine Zellem, donc qui malheureusement n'a pas pu être présente aujourd'hui non plus. Donc, elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « Politique de maîtrise de la demande d'énergie et résistance au changement ». Dans cet ouvrage, elle recense aussi tout un tas d'actions, d'expérimentations menées en région PACA, au Québec, qui utilisent aussi donc, ces techniques-là de libre engagement, de pied dans la porte, et qui montrent des résultats tout à fait efficaces. Donc tout ça, c'est très bien, mais l'idée aujourd'hui, c'est que ces techniques ne soient pas seulement cantonnées à des recherches expérimentales, mais bien qu'elles soient utilisées, exploitées par les professionnels qui travaillent à la sensibilisation du grand public. Ce sont vraiment, on l'a vu, ce sont vraiment des techniques qui fonctionnent, qui sont d'ailleurs largement déjà utilisées dans le domaine du marketing, de la publicité, de la vente. Il est donc aujourd'hui vraiment nécessaire de les mettre au profit d'une cause plus responsable et plus durable. Les compétences des sociologues et des psychosociologues peuvent vraiment apporter un appui pour l'action publique, notamment donc en travaillant, vous l'avez vu, sur la manière de transmettre le message, par exemple voilà, lors d'ateliers, lors de sessions de concertation. L'accroche est très importante, en orientant, en modifiant les techniques de communication et d'accroche du public. Donc, il est donc nécessaire aujourd'hui de comprendre que le changement qui doit s'opérer, c'est avant tout un changement de comportement. Et donc, il est nécessaire de travailler sur l'humain. Donc, d'utiliser des techniques adaptées et efficaces pour modifier les modes de consommation et de production des ménages. Donc, également bien comprendre, nous l'avons dit hier lors du forum sur le changement climatique, il en a été beaucoup question, être vraiment conscient du fait que l'écologie, ce n'est pas une contrainte, mais bien une réponse à la crise économique et sociale. Alors, nous pourrons, tout à l'heure on va vous donner la parole, donc nous pourrons en débattre un peu plus largement, et voir, vous personnellement, qu'est-ce qui peut vous permettre de changer vos comportements et avoir des comportements plus responsables, donc en particulier au niveau des transports, de la consommation et des déchets. Quel est votre avis sur ça? Et aussi de manière plus générale, quelle serait la solution? Je ne sais pas, imaginez-vous, mettez-vous à la place d'un élu. Comment mieux sensibiliser la population et inciter au passage à l'acte? Voilà, on va vraiment vous permettre, ça va être vraiment sur le temps d'un échange. Donc on pourra débattre de tout ça. Voilà, je te laisse la parole.
Ah déjà, non. On va avoir beaucoup de temps, alors ça va changer par rapport aux conférences où on court après le temps. Ici ça va être très, très, très calme. Donc par rapport à ce que vient de vous présenter Laurence, ce que je vous présentais moi, ça converge en grande partie avec les mêmes thématiques et les questions de de frein au changement de comportement. Par contre, le point de départ est tout à fait autre. En fait, ça, l'idée de départ de cette intervention, ça vient d'une action qui avait été faite par BC au mois d'avril dernier dans le cadre d'une campagne qui était sur le thème de la démesure. L'idée de cette campagne, en fait, c'était qu'il y avait axé sur la question du revenu plafond, du revenu maximum autorisé. Et parmi les différentes actions, les conférences qui avaient été menées, il y en a une qui avait lieu chez le concessionnaire Ferrari, qui est axé à Maignan. Et le but de cette action, en fait, sur le ton de l'humour, comme on le fait habituellement, c'était de mettre le doigt sur le fait qu'en pleine période de crise économique, les bénéfices de cette entreprise avaient enregistré un record pour l'année 2012, alors que dans le même temps, la population générale, elle voyait ses ressources financières s'amenuiser. Donc au-delà de cette entreprise en elle-même, en fait, qui était prise comme un symbole de l'industrie du luxe au sens large, la question qui était posée, c'était celle de l'absence de plafond dans les revenus, une absence qui permet d'un côté des fortunes démesurées, sans aucun rapport avec le travail et l'œuvre des gens dans la société, et puis d'autre part, voilà, un appauvrissement général de la majorité de la population. Donc au niveau, c'est une question qui se pose à la fois au niveau social, écologique, et puis au niveau culturel. Donc c'est la question culturelle, ce que je vais développer après. Juste un mot sur l'aspect social et écologique. En fait, à ce niveau-là, social et écologique, de par cette démesure des revenus, on a là potentiellement un mode de vie qui a la capacité d'être ultra polluant, ultra destructeur de ressources, et qui, en même temps que ça, se pose un petit peu comme un modèle social vers lequel tout le monde est censé tendre, comme si tout le monde avait à faire des efforts pour devenir aussi riche que les consommateurs d'industrie du luxe. On sait très bien que c'est pas le cas, mais c'est un peu l'idée qui est lancée. Et alors que la population, au contraire, elle s'en éloigne de plus en plus, matériellement parlant. Donc, à un niveau plus culturel, ce que pose ce mode de vie ultra-consommateur de l'ultra-richesse, la question, c'est comment est-ce possible que consommer et posséder au-delà de ce dont on a besoin pour vivre à l'aise, ça soit autant désirable. Quels sont les ressorts du fait que ça soit aussi désirable? Et c'est, d'après nous, une question de valeur collective, dont on avait vu une illustration justement après cette action qui avait lieu au mois d'avril. Il y a eu un article qui avait suivi l'événement en question, qui était paru dans le journal Sud-Ouest. Et ce journal Sud-Ouest, ils ont aussi un site internet sur lequel ils publient leurs articles. Et donc, suite à cet article, il y avait eu un nombre assez hallucinant de commentaires, dont la plupart étaient extrêmement critiques quant à l'action de BC. Et ces critiques, on peut les résumer en gros, enfin, on les avait toutes lues, on les regroupait un peu en trois grands types. La première critique, c'était, vous qui avez fait cette action, vous êtes des assistés. Vous feriez mieux de travailler plus pour vous aussi pouvoir vous payer des voitures de luxe. C'était un peu ce qui ressortait. La deuxième critique, c'était si vous faites ce genre d'action, c'est parce qu'au fond vous êtes jaloux des gens qui consomment des automobiles de luxe et au fond vous aimeriez bien avoir la même chose, c'est pour ça que vous faites ces actions, vous n'osez pas avouer vos intentions cachées. Et puis la troisième critique, c'était en gros, vous les gens qui avez fait cette action, vous êtes des bobos, vous connaissez pas la dure réalité de la vie. Et c'était un peu ce qui résumait l'essentiel des commentaires qui étaient faits sur cette action. Et donc ces critiques, elles surgissent pas de nulle part, on les a pas trouvées anodines, on a trouvé qu'elles étaient assez représentatives d'un imaginaire collectif qui tourne un peu dans les têtes. Et ça nous semble intéressant de voir qu'est-ce qui est un peu derrière cet imaginaire-là et qu'est-ce qui conditionne cette vision des choses. Et c'est peut-être un très grand lien avec le fait que c'est dur de changer pour beaucoup de gens et que c'est dur de se mettre à fonctionner de façon à la fois moins polluante, moins consommatrice et aussi moins inégalitaire. Donc je vais reprendre un petit peu ces trois critiques-là qui avaient été formulées, puis on va essayer de voir qu'est-ce qui se cache un peu derrière. Donc la première de ces critiques, elle pose un mot péjoratif directement, assistana. Voilà, vous êtes des assistés. Elle pose ce mot sur les gens qui sont hors course, sur un peu les recalés du système. Et elle sous-entend que pour s'en sortir matériellement, il suffit de bosser, point. Et puis, de même, dans cette critique, la différence n'est pas du tout faite entre, d'une part, vivre à la hauteur de nos besoins, et puis vivre dans l'ultra-richesse, comme si c'était tout naturel de passer de l'un à l'autre, que c'était juste une question quantitative. La seconde critique, elle sous-entend que vivre dans le luxe, c'est désirable. Voilà, on désire tous vivre comme les gens qui roulent dans des voitures de luxe. Et puis, La troisième, en fait, elle enferme la contestation dans un terme péjoratif. Vous êtes des bobos, c'est bon, on n'a plus rien à entendre de votre part. Sous-entendant, en fait, que les gens de BC qui posent la question de la démesure, ils ne connaissent pas la vraie vie. Et là, ceux qui connaissent la vraie vie, ben voilà, c'était ceux qui formulaient ce genre de commentaires. Donc, il y a quatre idées reçues là-dedans. Première idée reçue, pour s'en sortir, il suffit de bosser. Bon, je ne vais pas trop exagérément m'étaler sur ce point, même si on a le temps, on va plutôt en profiter pour discuter d'autre chose. Mais simplement, je vais dire que ça fait abstraction du fait que, d'une part, dans la vie, tout le monde ne part pas avec les mêmes ressources à la base. Et donc, à travail fourni égal, on n'en retire pas tous la même chose, car le point de départ n'est pas le même. D'autre part, ces inégalités de ressources, elles ont plutôt tendance à être accentuées dans le contexte actuel. Pour prendre une statistique parmi plein d'autres, entre 2008 et 2010 en France, les 10% de la population les plus pauvres ont perdu dans leur totalité 520 millions d'euros entre tous, alors que dans le même temps, les 10% les plus riches se sont enrichis de 14 milliards. C'est une statistique qui est tirée du site inégalité.fr. Bon, il y en a énormément d'autres qui vont à peu près dans le même sens, dans la même analyse globale. Et puis, pour terminer sur cette idée reçue, ça oublie un peu le fait que, tout simplement, vu que c'est la crise du travail, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, même si on veut bosser, le travail tel qu'il est partagé aujourd'hui, il n'y en a tout simplement pas pour tout le monde dans les conditions actuelles. Bon, alors, je ne vais pas m'étaler plus sur ce premier point, je vais développer un peu plus les trois autres. Donc, la deuxième idée reçue, en fait, ça consiste à confondre, d'une part, vivre à la hauteur de nos besoins, et d'autre part, vivre dans l'ultra-richesse. Alors, bien évidemment, on est tous d'accord sur le fait qu'avoir un toit fiable, avoir de quoi manger, pouvoir se déplacer comme on veut, c'est mieux que d'être dans la précarité extrême et de galoper tout le temps pour survivre. Ça, personne ne dira le contraire. Et si on raisonne en termes uniquement de revenus, et si on transpose tel quel cet écart en niveau de richesse au-dessus, on peut dire que de la même façon, le luxe, c'est mieux que de vivre juste modestement à la hauteur de nos besoins. Et ça oublie un peu le fait que l'écart entre précarité et vivre à la hauteur de nos besoins, c'est un écart qui est surtout qualitatif, alors que l'écart entre vie modeste et luxe, c'est un écart qui est surtout quantitatif et qui se mesure surtout en termes d'argent. Et la différence, en fait, entre précarité et vie modeste, c'est tout simplement d'avoir une place dans le monde, de pouvoir se poser sans excessivement s'inquiéter de où c'est qu'on va être le mois prochain, est-ce qu'on va avoir à manger d'ici X temps. Et puis, c'est avoir en même temps, avoir prise sur ce qui passe autour de nous et pouvoir y participer. Et par contre, l'écart entre vie modeste et luxe, c'est tout simplement quantitatif, ça se mesure juste en termes d'argent. Donc si on ne distingue plus ces deux différences-là, c'est peut-être parce que l'argent a un peu trop pris la place d'autres valeurs qu'on a un peu oubliées, comme la dignité, le droit à une sécurité minimale ou la participation au bien commun. Et c'est peut-être lié à ça, le fait qu'on accepte très facilement dans la société aujourd'hui que les gens se fassent marcher dessus, qu'ils galèrent pour trouver un boulot, pour se loger, etc. Et que tout globalement soit privatisé, que les biens communs en général soient privatisés. La troisième idée reçue qui ressortait de ces commentaires-là, c'était le fait que le luxe c'est désirable. Alors c'est désirable au point qu'il y a eu une pub récemment pour le loto, donc une campagne de la Française des Jeux, où on voyait en fait quelqu'un qui appelait un ami, il était dans une grande propriété de luxe, il était au bord d'une piscine, et il disait à son ami, ah, tu devrais venir là, elle est vraiment trop bonne, tu devrais venir. Ah mais ouais c'est vrai, tu travailles, tu peux pas. Eh ben ouais tu travailles, bon mais je vais rester tout seul dans ma piscine. Ça se concluait là-dessus, et j'avais trouvé cette pub assez frappante dans le fait qu'elle sous-entendait qu'il vaut mieux être ultra riche, quitte à être tout seul et sans lien social, plutôt que d'avoir des amis, ou même dans la richesse où il était, il aurait pu partager cette richesse-là avec ses amis, c'est quelque chose qui pourrait sembler évident. Et là, c'était, non, tu gagnes au loto, tu vis dans ta propriété de luxe tout seul à côté de ta piscine, et c'est un peu l'idée qui était véhiculée par ce message. Alors voilà, c'est un exemple assez extrême, sans aller jusque-là. Le luxe, c'est un peu en fait le mode de vie de ce qu'on voit dans les success stories, les gens qui sont partis de rien et qui ont réussi et qui ont établi quelque chose de très grand, et ce qu'on appelle les self-made men en anglais, les gens qui se sont construits tout seuls. Et ce genre d'histoire, en fait, bon, ça essaye de faire rêver les gens en général, mais ça fait oublier un certain nombre de choses, parmi lesquelles, d'une part, le fait que la mobilité sociale qu'on nous vante tant et qui, soi-disant, permet à un balayeur de devenir président, cette mobilité sociale, en réalité, elle est bien plus réduite que ce qu'elle suggère, et qu'elle n'est pas la plus grande dans les pays où ce genre d'histoire se vend le plus. À titre de comparaison, on peut prendre les États-Unis et le Danemark. Le pays des deux où la mobilité sociale est la plus élevée, c'est le Danemark. Pourtant, on ne parle jamais, ou j'entends pas souvent en tout cas parler du rêve danois. Par contre, on parle beaucoup du rêve américain qui permet à quelqu'un de pauvre d'accéder à une très haute, de monter dans l'échelle sociale. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Ça relève plutôt d'un certain nombre de cas particuliers qui sont très très montés en épingle. Mais ça correspond assez peu à l'ensemble de la population. Autre chose qu'oublie cette idée-là, c'est le fait que ben, réussir sa vie, ça peut peut-être s'estimer autrement que par ses possessions ou sa consommation de produits de luxe, et ça peut peut-être s'estimer autrement qu'à une échelle individuelle. Et puis, concernant cette question des self-made men et des gens qui soi-disant se construisent tout seuls, ça oublie une chose très importante aussi, c'est qu'en réalité, personne ne se construit tout seul. Ne serait-ce que quand on grandit grâce à des gens qui s'occupent de nous quand on est petit, qui nous apprennent à lire, qui nous inculquent une culture. On grandit grâce à des infrastructures que d'autres ont construites avant qu'on soit là, grâce à des patrimoines matériels et immatériels que d'autres ont fait vivre avant nous et continuent à faire vivre aujourd'hui. Par exemple, la paysannerie qui nous nourrit, la culture dans laquelle on a grandi ou qu'on peut avoir comme référence, etc. Et le rêve en fait de l'homme qui, soi-disant, s'est fait tout seul et ne doit rien à personne, c'est assez abstrait, on peut même dire illusoire, quand on prend un peu cette perspective-là, parce que qu'on le veuille ou non, on est lié de fait à énormément de gens, et on doit beaucoup de choses à beaucoup de gens quand on regarde ça en détail, et quand je dis on doit beaucoup de choses, c'est pas une dette en fait qui peut s'acquitter avec de l'argent. Et puis la quatrième idée reçue que je détaille, c'est un discours qui se pose comme réaliste et qui dit ben, « la vie c'est nécessairement dur, c'est comme ça, et ceux qui cherchent à ce qu'il en soit autrement, ben, ils ne connaissent pas la réalité de la vie. » En fait. C'est un peu le discours qui se pose comme le discours réaliste. Voilà, la réalité c'est ce que je dis moi. Et si vous essayez de voir ce qui se passe derrière cette réalité-là, non, vous la fuyez. En fait. La réalité c'est celle qu'on vous montre, c'est « la vie est dure, c'est comme ça ». Et c'est un peu ce que veut dire chez certains, une phrase qu'on entend souvent, c'est ben, « moi les 35 heures, je les fais en 3 jours ». Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire ça, des gens qui travaillent beaucoup. Alors je dis chez certains, parce que des gens qui font 35 heures en 3 jours, il y en a plein. Et je pense notamment aux paysans que vous trouverez sur le marché en face là-bas. Mais ils n'en font pas pour autant un dogme. Ils ne se vantent pas spécialement de dire « moi je fais 35 heures en 3 jours ». En particulier dont je parle là, c'est une espèce de culte de la dureté. Un peu comme si le fait d'en baver, en fait, c'était devenu une religion, un truc auquel tout le monde doit adhérer. Et ceux qui disent ça, c'est des gens qui réellement bossent très dur, qui ne s'en plaignent pas, même s'ils en souffrent physiquement ou psychologiquement. Et surtout, ils n'aiment pas ceux qui remettent en question ces difficultés, même s'ils sont en première ligne, même si c'est les premiers à en souffrir. Et à la limite, quand ils tombent sur un discours qui essaye de remettre en question ces difficultés-là, ils ont tendance à le dénigrer. Par exemple, dans notre cas, c'était faire le lien entre les bénéfices records d'une entreprise qui vend aux 1% les plus riches pendant que les plus pauvres s'appauvrissent globalement. Quand on essaye de poser ce genre de questions, eux, ils disent qu'on ne voit pas la réalité en face. La réalité, c'est il faut trimer, point barre. Et puis, si on essaye de réfléchir un peu plus, ben, eux, ils entendent cette réflexion comme une fuite de la réalité. Et en réalité, l'hypothèse en tout cas qu'on peut formuler, c'est qu'ils sont tellement piégés par un discours du management qu'ils ne sont plus capables de prendre conscience de ce discours-là. En fait, le management, ça joue pour beaucoup de gens sur le goût du travail bien fait, qui est une vertu tout à fait d'inintérêt, voilà. Et en fait, ils utilisent ce goût du travail bien fait, mais pour le détourner et l'appliquer à des contextes où les gens qui travaillent n'ont plus de prise sur ce à quoi sert leur travail et ne ressentent plus nécessairement l'utilité de ce qu'ils font. Et donc pour faire avaler la pilule, ce discours-là en fait ne nous parle ni de l'utilité de ce qu'on fait ni de la prise qu'on peut avoir dessus à titre personnel ou collectivement, mais il nous fait juste comprendre que voilà, il faut se donner à fond au boulot et en faisant comme ça on est des winners, même si sur la fiche de paye c'est pas une fiche de paye de winner. Ils essayent de laisser cette idée-là, de suggérer ça. Donc dans la question « pourquoi c'est dur de changer globalement ?», je pense que ces quelques idées reçues-là, elles peuvent expliquer une partie de l'inertie générale et de la difficulté à envisager un changement. Et le changement, en fait, il peut prendre racine, je pense, dans des idées qui ouvrent d'autres perspectives. D'une part, reprendre conscience du fait qu'on n'est pas des individus isolés, qu'on s'est construit et qu'on continue à se construire tous les jours en lien avec une multitude d'autres personnes. Que réussir, c'est pas pouvoir consommer plus tout seul. Voilà, on imagine quelqu'un dans une voiture de luxe qui fait qu'appuie sur son accélérateur, boum boum, voilà, c'est moi le plus fort, je suis tout seul. Mais ça serait peut-être réussir, ça serait peut-être avoir une relation un peu plus riche avec ceux qui nous entourent. Et ça implique aussi un usage modéré des ressources naturelles. Également, autre question, celle des biens communs. C'est quelque chose qu'on a tendance à complètement oublier parce qu'on n'a plus la notion de ce qu'est un bien commun, de ce qu'est le bien public. Et donc, avoir prise sur ce qui se passe autour de nous aussi et sur ce qu'on fait, c'est-à-dire sortir un peu de la précarité, mais ce n'est pas du luxe. Et ce saut qualitatif-là, il ne se mesure pas en termes d'argent. Donc pour terminer, pour revenir sur ce que présentait Laurence au début, la question des comportements éco-citoyens sur le fait d'économiser l'eau, économiser les ressources non renouvelables, générer moins de déchets dans le sol, moins de déchets qui partent dans les fleuves, dans les océans, dans l'air, c'est aussi rendre plus digne la place qu'on occupe. C'est prendre soin des biens communs qui étaient là avant nous et qu'on se doit de maintenir en bon état pour ceux qui seront là après nous collectivement. C'est avoir une relation de respect et de soin vis-à-vis de ces ressources et vis-à-vis d'autres personnes. Et autres personnes grâce à qui on se construit tous les jours et avec qui on interagit et qui eux-mêmes bénéficient de ces mêmes ressources communes. Donc voilà, c'est quelques pistes qui aideraient peut-être un peu à se défaire de cet imaginaire pesant. Donc voilà, du coup, on a fini un peu plus en avance que prévu du fait de l'absence de Laure Noilatte qui a des soucis de santé. Donc il nous reste une demi-heure pendant laquelle on peut en profiter pour échanger et pour écouter vos questions, pour essayer de voilà, discuter un peu. Donc voilà, on attend vos questions, vos remarques, vos suggestions. C'est à vous.
Moi, ma question, c'est pour motiver les gens, pour trouver des leviers, est-ce que ça ne serait pas apporter un imaginaire, des valeurs qui puissent venir se substituer à l'imaginaire consumériste et capitaliste de la publicité ? Et justement, je voulais un témoignage de la part de vous qui faites partie de Bici. Et Bici, c'est un nom basque, visiblement. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le fait que dans le Pays basque, que je ne connais pas, je découvre et tout ça, je m'aperçois qu'il y a une dimension au niveau culturel, c'est-à-dire une langue, une appropriation du territoire. C'est-à-dire que apparemment pour quelqu'un qui est basque, il a des valeurs et un attachement au monde qui lui permet... De peupler son imaginaire et peut-être d'échapper et de combler un certain vide, j'en sais rien, vide qui, d'après moi, est comblé par les apports, enfin les propositions, le luxe et le message publicitaire. Je ne sais pas si vous saisissez mon...
Ça va très loin comme hypothèse. Il y a peut-être un lien du fait qu'on est une culture vivante... qui est en même temps associé à une paysannerie particulière, comme on essaye de... C'est vrai qu'il y a beaucoup de militance pour préserver ce territoire tel qu'on aimerait le voir vivre. Après, je pense pas qu'en soi, ça puisse être un facteur suffisant pour ne pas... pour résister un peu à l'imaginaire de la consommation et de l'individualisme. Mais c'est vrai que... Et je pense que c'est le fait de cultiver... des valeurs plus collectives, un meilleur soin au bien commun, une conscience du fait qu'on existe en lien avec d'autres, ça peut se faire peut-être de façon plus naturelle quand on évolue dans une culture vivante de ce type. Après, je pense qu'il ne faut pas le voir comme ni comme le seul facteur, ni comme un facteur limitant. Il y a plein d'autres choses qui entrent en jeu. Et si on pense à d'autres régions qui sont peut-être un peu plus désertées, entre guillemets, culturellement parlant, c'est pas pour autant que rien n'y sera possible. Voilà.